Depuis plus de 9 mois, des organisations politiques, sociales et écolo lilloises se réunissent régulièrement pour construire ensemble un programme pour les municipales. Alors on peut citer parmi les orgas Survie Nord, l'Offensive, le NPA l'anticapitaliste, Utopia 56, l'action antifasciste NP2C, ainsi que des militants des Soulèvements de la Terre ou d'Extinction Rébellion. Cette construction collective a pour objectif la recherche d'une large alliance côté gauche de rupture et écologie radicale sur les bases du municipalisme libertaire. Pour parler de cette démarche et de ce concept de municipalisme libertaire, on a contacté l'orga qui est un peu à l'initiative, l'Offensive. Victor Aitouche, porte-parole de l'Offensive, joint par téléphone lundi dernier.
Alors l'Offensive, c'est une organisation d'écologie sociale fondée pendant le confinement et officiellement en 2021 autour des questions d'écologie, de démocratie directe et de socialisation des moyens de production. Donc c'est un peu c'est la rencontre en fait de militants antifa, de coopérateurs, donc de personnes qui travaillent dans des sociétés coopératives, de syndicalistes et d'autonomes, sur le constat que ces 40 dernières années, la gauche radicale, notre stratégie, elle nous avait un peu envoyé dans le mur, surtout face à la montée de l'extrême droite et à la crise climatique, et qu'il fallait un peu mettre de côté nos petites querelles de chapelle et notre pureté militante pour expérimenter un modèle de société qu'on pourrait faire avancer sans attendre le grand soir. Voilà, en gros, c'est ça, l'Offensive.
Donc vous participez à un projet de construction collective d'un programme pour les municipales à Lille autour des idées du municipalisme libertaire. Alors comment tu définirais le municipalisme libertaire ?
Le municipalisme libertaire, en fait, c'est la gestion de la municipalité via des assemblées populaires, donc où chaque habitant et chaque habitante a la possibilité de venir s'exprimer dans ces assemblées et de voter avec le principe d'une personne égale une voix sur la vie de la ville, la vie économique et la vie politique, en gros. Comme on sait qu'on ne peut pas fonctionner en autarcie totale, hein, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas, chaque assemblée populaire ferait partie d'une confédération d'assemblées à un niveau juste au-dessus. Donc, soit, par exemple, pour une ville comme Lille, on pourrait imaginer, par exemple, une assemblée populaire par quartier qui voterait pour avoir des délégués qui seraient élus sur un mandat impératif et révocable pour gérer soit des problématiques qui est plus logique de gérer au niveau de la ville entière, et ainsi de suite au niveau de la région et tout ça. Donc ça fait plutôt que de vivre dans un État-nation, ce serait dans une confédération ou dans des confédérations globales de communes.
D'où vient cette idée à la base ?
Alors nous, on s'inspire beaucoup d'un penseur états-unien qui s'appelle Murray Bookchin, qui a théorisé tous ces concepts d'assemblée populaire, de démocratie habitante. En fait, c'est un homme qui est né dans les années 20 et qui a traversé un peu tous les courants de la gauche radicale états-unienne au cours de sa vie. Il a commencé au Parti communiste, il me semble, il a été trotskiste, il a beaucoup été avec les anarchistes. Et en fait, ce qui est très intéressant dans sa pensée, c'est qu'il fait un peu la synthèse de 150 ans en fait, de pensée marxiste et anarchiste, marxisante. Et en plus, il a le bon goût, pour un homme de son époque, de commencer à inclure dedans les questions climatiques et écologiques.
Alors, est-ce que le municipalisme libertaire existe dans des régions du monde, est en application, tu dirais ?
Ouais, c'est vrai qu'en plus, tout à l'heure, en décrivant le fonctionnement, j'avais en tête justement l'exemple de ce qui se passe au Rojava, donc en Syrie du Nord, chez les Kurdes, où suite à la chute de, enfin même pendant la guerre civile qui mène à la chute de Bachar al-Assad, les Kurdes qui n'ont pas de nation propre, qui sont répartis entre l'Iran, la Syrie et l'Irak et la Turquie, se sont levés et sous l'impulsion d'un parti autonomiste kurde d'obédience marxiste-léniniste qui a tourné au bukchinisme plus tard, le PKK, et gère donc le territoire qu'ils ont conquis ou libéré des mains de Daesh et de Bachar, le gère suivant les préceptes du municipalisme libertaire. Par exemple, la ville de Kobané est divisée en plusieurs assemblées populaires ou les autres villes. Voilà.
Peut-être est-ce qu'il y a des retours sur cette expérience ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça crée d'autres problèmes ?
Bah, globalement, ça fonctionne. Après, c'est compliqué de vraiment faire un état des lieux des choses parce que c'est une zone de guerre. Ça tient, pour l'instant, ça tient. Et même l'ensemble des communautés qui sont sur ces territoires, avec les événements récents, l'offensive du nouveau pouvoir syrien central sur les régions kurdes, tout le monde a l'air de vouloir résister à cette offensive. Donc j'imagine que les peuples sur ces territoires s'y retrouvent.
Alors, est-ce que ça pourrait être adapté à la France, sachant que bon, on vit aussi dans un pays où il y a des quartiers riches, il y a des quartiers pauvres, il y a des quartiers qui ont différents, enfin des populations qui ont différents intérêts. Est-ce que ça pourrait fonctionner, tu penses?
Bon, de toute façon, que ce soit au Kurdistan ou en France, c'est les mêmes problématiques. Hein. On vit toutes et tous dans des quartiers avec des sociologies différentes et avec des problématiques différentes. Ça, c'est pas un souci. En fait, le principal souci, c'est que les gens, ils ont pas l'habitude à ce qu'on leur demande de réfléchir tout court déjà et à avoir un vrai poids sur les décisions même locales. Donc le principal obstacle, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais même dans les quartiers ultra bourgeois de Lille ou de n'importe quelle ville en France, il y a une mixité sociale en fait. Donc ça va forcément pousser à faire des débats et sûrement à infléchir des positions. Après, faut dans le fonctionnement, en tout cas c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est pensé dans les textes qui réfléchissent à cette question, c'est que ça fonctionnerait sous un espèce de régime de charte qui serait un peu des garde-fous pour empêcher une partie, un quartier par exemple, de voter tout et n'importe quoi. Les quartiers aux alentours, ils auraient aussi, sur certaines questions en tout cas, un espèce de droit de regard sur les questions qui pourraient les impliquer eux-mêmes. C'est aussi à charge des militants progressistes et des militants municipalistes libertaires en particulier, de s'organiser le mieux possible sur tous les territoires, de se former le mieux possible pour avoir une parole crédible auprès de toutes et tous. Parce que même dans le municipalisme libertaire, il y a, pour nous, il n'y a aucun problème à s'organiser de façon structurelle, en partie, en association, pour faire émerger des majorités dans les assemblées populaires. À chaque fois qu'on parle, c'est ce qu'on conseille le plus, s'organiser au maximum pour pouvoir avoir un poids dans les assemblées.
Alors, ce municipalisme libertaire, ça apparaît aussi comme une alternative à l'État-nation. Pourtant, l'État, ça pourrait être un outil efficace en termes d'égalité, notamment, ou de régulation macroéconomique, gestion de la santé, de nombreuses choses, de nombreux services publics aussi.
Mmh. Oui, en effet. Sauf que jusqu'à présent, dans l'histoire humaine, l'État s'est toujours retrouvé entre les mains de quelques possédants ou de quelques familles puissantes et a détourné les fonctions de l'État contre la population, plus qu'elle ne l'a servi. Mais les prérogatives de l'État serait en fait diluée soit au niveau local, par exemple pour l'éducation, des choses comme ça, ou si c'est plus intéressant sur certaines d'autres questions d'éducation, de sécurité, à un niveau juste au-dessus, mais toujours de façon démocratique, à une personne égale une voix. En plus de l'État-nation, nous on voudrait en finir aussi avec la pseudo-démocratie représentative, en fait.
On est toujours par téléphone avec Victor Aitouche, porte-parole de l'Offensive. Alors, votre initiative, où elle en est? Parce que ça fait plusieurs mois que vous organisez des ateliers. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de ces ateliers? Comment ça s'est déroulé un petit peu?
Ben, les ateliers, ils se déroulent une fois par mois. Toujours dans des lieux, en tout cas au maximum dans des lieux qui sont gérés par les salariés du lieu ou des lieux associatifs, et ils sont sous le format de la conférence citoyenne pour le climat. Donc, ça veut dire que on fait venir, donc ça dure 4 heures sur un ou deux thèmes précis. Par exemple, là le prochain samedi, ça va être sur la diversité et la sécurité. Et on fait venir donc des personnes qui ont travaillé sur la question ou des associatifs qui militent sur une question. Donc souvent, ils sont 3-4 en table ronde à parler un peu de leur travail, de leur recherche, des difficultés qu'ils rencontrent. Les gens qui participent peuvent leur poser ensuite des questions. Et ensuite, tout le monde se réunit en petits groupes de 4-5 pour faire émerger des problématiques sur la question et pour proposer des solutions, en fait. Ouais, c'est ça, des préconisations. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que comme le programme est porté notamment par l'Offensive, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on reprend ensuite toutes les propositions, on les retravaille, parce que des fois, il y a besoin de retravailler un peu, et on fait en sorte qu'elles collent à notre ligne politique au maximum, parce qu'on va devoir le défendre, et on l'intègre donc soit dans le programme, soit dans la plateforme à négocier avec d'autres forces de gauche pour les municipales de 2026, soit pour y aller en propre.
Alors là, vous en êtes où justement, parce que donc il y a l'Offensive, il y a peut-être aussi d'autres organisations, associations, collectifs politiques avec vous. Vous en êtes où là?
Eh ben, normalement, si tout va bien, mercredi, lors des vœux de la Waria Douche, la candidate LFI de Lille, en présence de Manon Aubry notamment, on aura annoncé l'union entre l'Offensive et la LFI, pour les municipales 2026.
D'accord, donc pas de liste en plus, vous joignez en fait à LFI, c'est ça, sur l'île, c'est ça?
Exactement, c'était en discussion depuis un moment, et on est tombé d'accord sur les histoires programmatiques, et de personnes, et de contreparties de postes, voilà. On pensait que ça allait être un peu plus compliqué, c'était sur la démocratie directe, la question de démocratie habitante. Et au fil des discussions, les points qu'on proposait, ils ont été acceptés. Donc on va pouvoir, une fois en poste, pouvoir travailler sur la mise en place d'assemblées populaires au moins une fois par mois dans un quartier différent de Lille. Donc déjà ça. Et ils sont très contents aussi de ce qu'on peut leur apporter d'un point de vue réflexion sur l'écologie. C'est les gros plus qu'on ramène, nous, c'est l'écologie et la démocratie directe. Pour contrôler, en fait, et pour avoir un poids sur ces décisions, bien qu'étant libertaire et n'ayant jamais envisagé de carrière politique, on aura quand même plusieurs personnes éligibles sur la liste de LFI. Enfin, sur la liste d'Union, pardon. Ce ne sera pas la liste du LFI, du coup.
Victor Aitouche, porte-parole de l'offensive, qui nous annonce donc dans cette interview que la liste qui devait être portée par l'offensive, le NPA, l'anticapitaliste et d'autres orgas, finalement rejoint LFI pour une liste d'union de gauche de rupture. Victor Aitouche rejoint donc Laouria Adouche sur l'île. Si vous voulez voir de vos yeux, de vos oreilles, à quoi ressemblent les ateliers proposés par l'offensive, il y en a un qui se déroule ce samedi 17 janvier du côté du café Le Bel Ouvrage au centre de l'île. Le thème c'est sécurité et lutte contre la discrimination. Ça commence à 14h avec un atelier de formation par l'offensive et avec la participation des militants de Survie Nord, du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, de l'AFA NP2C et d'Emmanuel Marcaille qui est éducateur du SAMU Social. Et puis ça se poursuivra à partir de 16h15 avec des échanges, des débats et puis la rédaction collective du programme.